Vous écoutez France Culture.
Question d'éthique, une émission hebdomadaire proposée par Monique Canto Sperber. La France est-elle encore un pays d'influence entre normes et puissance, avec Michel Fouché? La France, 1% de la population mondiale, et pourtant c'est l'un des pays qui compte le plus dans le monde. Certes, nous n'en sommes plus à l'empire de Charlemagne et à celui du roi Soleil qui faisait la politique de l'Europe, ni même au temps où toute l'Europe parlait français, avant que les conquêtes napoléoniennes ne mettent au cœur de l'Europe le modèle d'émancipation à la française. Le dernier siècle a été pour la France un siècle terrible. Notre pays est-il pour autant relégué en seconde division? Quelles sont les sources de son influence durable et aujourd'hui étonnamment, paradoxalement grandissante? Derrière les réalités et les politiques, hard power, soft power, smart power, quelles normes et quelles valeurs la France porte-t-elle? Michel Fouché, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de publier en coédition Institut français, Robert Laffont, l'Atlas de l'influence française au XXIe siècle. Donc j'imagine que nous allons trouver tous les éléments de réponse à la question que j'ai posée et qui donne une vue d'ensemble, non seulement pour le présent, mais aussi pour l'avenir, de ce que peut être l'influence française. Au fond, l'influence française, elle est d'abord portée par une langue et une culture.
Oui, c'est le premier chapitre, hein, la langue. Une langue importante, officielle, semi-officielle ou d'usage dans 36 pays, une pensée, une clarté de l'expression linguistique française, qui progresse pour des raisons démographiques, notamment en Afrique, mais qui progresse aussi dans un pays comme les États-Unis.
Oui, parce que ce qui est frappant, c'est qu'il y a 220 millions de locuteurs du français. Donc on peut dire que c'est...
Et 120 vraiment... millions d'apprenants.
Oui, on peut dire que ce n'est pas grand-chose par rapport à la quantité de personnes qui parlent ne serait-ce que le chinois.
Huitième rang mondial.
Ou qui parlent l'anglais, en prenant tous les pays du Commonwealth. Mais en même temps, la France est le pays, d'une certaine manière, de la littérature mondiale, la tradition littéraire de la
c'est
France.
C'est considéré comme la nation la plus littéraire du monde. On voit très bien, d'ailleurs, ça m'a frappé cette année au Salon du Livre, une certaine internationalisation du Salon du Livre. C'est-à-dire, on vient se faire reconnaître, en quelque sorte. Hein. C'est là que ça se passe, comme on dit. C'est là que ça se passe aussi à Cannes. Parce qu'à Cannes, on importe des films étrangers et on leur rend hommage, alors qu'à Hollywood, on exporte. Ce n'est pas du tout la même attitude. Et puis, vous le savez mieux que moi, la France a, depuis au moins le XVIIIe siècle, on parle beaucoup des Lumières, mais il y avait la conversation, les salons. Et ça, c'est une des caractéristiques reconnu à notre pays dès cette époque. C'est un lieu de débat, c'est un lieu de discussion, un lieu de conversation. Je pense que la clarté de la langue française, avec un sujet, un verbe, un prédicat, favorise sans doute cela, même si l'offensive anglo-américaine est tout à fait redoutable, y compris en France.
Alors, votre livre s'ouvre dès les premières pages par le rappel des circonstances dans lesquelles l'Alliance française a été fondée. Alors, l'Alliance française, je crois que tout le monde, tous nos éditeurs savent ce que c'est. Fondée en 1883, donc peu de temps après l'installation du régime républicain, comme association nationale pour la propagation de la langue française dans les colonies à l'étranger. C'est un symptôme, le symptôme qu'il faut que la langue française garde sa zone d'influence, mais en même temps peut-être l'inquiétude de l'avoir déjà menacée.
Alors, l'inquiétude des fondateurs de l'Alliance française, qui compte maintenant plus d'un millier d'établissements, sur le modèle, en 1883, de l'Alliance israélite universelle, c'est à la fois de rebondir, en quelque sorte, après le traumatisme de la défaite contre l'Allemagne de 1870-71, mais aussi de résister à ce qu'on perçoit déjà d'une concurrence anglo-américaine. C'est tout à fait clair dans les textes en particulier de Paul Cambon, qui a rédigé Le Diplomate, qui a rédigé le texte que vous venez de citer. Et enfin, on associe la propagation non plus de la foi mais de la langue à l'influence. C'est dans la première phrase que j'ai retrouvée dans les archives du Quai d'Orsay à la Courneuve. Et on retrouvera ce lien influence-langue, pensée-culture, dans un formidable discours du général de Gaulle en octobre 1943 à Alger pour le 60e anniversaire de l'Alliance française, où il installe le concept d'influence culturelle, qui pour lui, l'un des deux môles de la résistance de la France au tourment de la période, l'autre étant la résistance armée. Donc il en fait quelque chose qui est de l'ordre de ce que j'appelle moi, mais ça ne vous surprendra pas, de l'ordre de la géopolitique. Ça ne se réduit pas à la culture et ça ne se réduit pas au soft power.
Ce qui est très frappant, en effet, c'est que la constitution de cette première alliance, c'est peut-être pas grand-chose, mais elle a joué un rôle tout à fait historique, se fait dans une conscience commençant d'un monde qui va se diviser en grandes puissances, les États-Unis, l'Allemagne, évidemment, qui est en train de devenir la première puissance européenne. Bon, cet équilibre que les conflits du XXe siècle vont sceller tout à fait autrement.
Et déjà dans une logique qui est celle à laquelle vous présidez aujourd'hui, à l'université, c'est la logique de la compétition, de la concurrence. Mmh. Et de Gaulle parlera plus tard des bienfaits de l'émulation, qui oblige, au fond, l'émulation c'est la comparaison, mais ça oblige également, dit-il, à s'ouvrir au courant du dehors.
Mais ce qui est très frappant, précisément, la première ouverture de la France vers le monde a été son entreprise coloniale, quand même, puisque c'est là qu'elle a véritablement imposé le français à des populations qui appartenaient à de toute autre culture. Et la place, la réalité de la francophonie dans le monde est directement liée à cette histoire-là. Or, lorsqu'on regarde aujourd'hui, et c'est une chose qui m'a surprise, parce qu'on ne l'a pas, peut-être nos éditeurs le savaient, mais moi je ne l'avais pas présent en tant que tel à l'esprit, quels sont les pays où le français est la première langue officielle, quels sont les pays où le français est la deuxième langue officielle et quels sont les pays où, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, le français n'a pas du tout le statut d'une langue officielle. Là, on trouve un certain nombre de pays qui sont pourtant extrêmement proches de la France et dont, me semble-t-il, presque tous les habitants parlent le français, en particulier l'Algérie, le Maroc, la Tunisie.
Ça, c'est la langue d'usage. C'est un pays sur cinq aux Nations Unies. Un pays sur cinq.
L'île Maurice même, où le français n'a aucun statut de langue officielle.
Oui, mais c'est la langue d'usage. C'est une langue
bien sûr.
Puis c'est la langue de l'éducation, de l'université et de la culture.
Mais ce qui montre tout de même que cette influence française a été traversée par des déchirements politiques ou des ruptures, des allégeances.
Oui, mais la langue reste a de l'avenir. La langue française a de l'avenir, ne serait-ce que pour des raisons démographiques. Alors nos autorités aiment beaucoup expliquer qu'en 2050, il y aura 700 millions de francophones. C'est peut-être le cas.
En raison de l'Afrique, j'imagine.
À condition qu'on ait les cadres pour accompagner cette aspiration à parler le français.
Oui, parce qu'au-delà de la langue, il y a l'éducation en français.
Il y a l'éducation en français.
Et là, le rôle des lycées français, des missions laïques, de tous ces établissements.
Oui, mais nous n'avons qu'un million, un million d'étudiants, d'élèves et d'apprenants sur 120 millions d'apprenants. C'est-à-dire que 99% du travail de diffusion de notre langue, aujourd'hui, est réalisé ailleurs que par des établissements français.
Oui, j'ai lu qu'il y avait 50 000 élèves dans les établissements français ou de langue française répartis dans le monde, c'est quand même pas beaucoup.
Oui, enfin, ça c'est pour la mission laïque.
Ça c'est pour la
Vous
mission laïque.
Vous avez ensuite l'Alliance française, l'association
l'Alliance française,
des...
Ce n'est pas une éducation entière en français, ce
non,
sont des cours
entendu,
de français.
Ah oui, non, mais bien sûr. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'AELE, l'association des enseignements du français. Au total, bon, c'est un million. Mais dans les lycées français, il y a une minorité d'élèves français aujourd'hui, ce qui est une bonne chose. Mais le gros du travail est fait dans les universités nationales des pays qui s'intéressent au français.
Et alors, ces dernières choses pour en rester sur l'influence en termes de langue et de culture, c'est l'étendue de la francophonie. Les francophonies, l'Union pour la francophonie, c'est un tiers des pays de l'ONU.
Un peu plus de 54 pays, oui.
Donc ça englobe beaucoup de pays où on ignorait que le français était une langue importante.
Oui, je crois que le travail de l'Organisation internationale francophonie qui se réunira de nouveau à Dakar le 27 novembre prochain est tout à fait important. Pour la langue, mais aussi Abdou Diouf a un peu une vision Nations Unies réduite pour cette structure des médiations politiques, des conseils. Enfin, il veut en faire un organisme vivant.
Et vous insistez beaucoup dans le livre sur les modèles, en particulier les modèles juridiques et normatifs que la France a exportés. Parce que, en effet, sur ce plan-là, l'influence exercée par la France est considérable.
C'est tout à fait fondamental. Le Code civil, c'est une affaire qui commence avec Napoléon. Mais beaucoup de pays, Atatürk choisira en partie le code civil français, en partie des éléments de Suisse et d'Allemagne. L'Amérique latine se convertit au droit romano-germanique. Et en effet, il y a deux grandes familles en dehors du droit musulman, deux grandes familles juridiques dans le monde, la common law et le droit romano-germanique. Et là, il y a une sorte de bataille juridique qui est en cours. Notamment dans les classements de la Banque mondiale sur la facilité ou non à faire des affaires. Il est arrivé, et ça a été dénoncé à juste titre, que dans cette fameuse ce diagnostic qui s'appelle « faire des affaires, doing business » de la Banque mondiale, le droit romano-germanique soit considéré comme un obstacle au développement des affaires. Il a fallu que des diplomates français contestent ce type de critères qui présidaient à ce classement défavorable, en particulier pour notre pays. Et là, on a eu gain de cause.
C'est saisissant. Mais en tout cas, lorsqu'on regarde la carte mondiale qui sépare les pays qui ont adopté, en effet, la tradition civiliste, disons, venue du droit romain.
Il y a un élément d'universalité.
Et puis, ceux de common law, les répartitions géographiques sont quand même très caractéristiques.
Tout à fait.
La tradition civiliste, c'est l'Amérique centrale, donc influence française, et Amérique du Sud. L'Afrique centrale avec l'Algérie et une grande partie de l'Europe, quand même.
Oui, mais bien sûr, non. Et la carte, c'est assez dominant. Et l'autre élément, c'est, la vigueur du droit français. À la Cour internationale de justice, on travaille à la fois en français et en anglais. À la Cour européenne de justice de Luxembourg, on travaille en français. Et les juristes français sont extrêmement féconds en matière d'évolution du droit international, en particulier du droit international humanitaire, des droits de l'homme, etc. C'est un élément tout à fait structurant pour l'influence française.
Et on a vu en plusieurs grandes circonstances la France revenir en première ligne pour défendre un certain nombre de valeurs qui sont liées à la nation, soit au droit humanitaire, soit au devoir de respect des souverainetés, dans des directions d'ailleurs assez diverses.
Et ça fait référence, vous citiez l'Alliance française, les instituts Confucius, le Hanban, a été monté exactement sur le schéma de l'Alliance française. Et sur la question des droits de l'homme et des valeurs, je crois que la France, avec les Européens, ont quand même installé des critères de l'état de droit, le droit international, qui est quand même un des fondements de la vie internationale dans un pays démocratique.
Alors, quand on essaie de définir de manière plus particulière l'influence française, alors qu'est-ce que cela a de particulier ? Plusieurs contributeurs à cet ouvrage collectif insistent sur le fait, par exemple pour le français, que c'est non seulement une langue qui a illustré la littérature mondiale, mais c'est aussi une langue qui a des ressources de contre-pouvoir, de résistance à la standardisation culturelle. C'est très difficile de justifier ça de manière scientifique, mais enfin, tout français qui écouterait ce jugement y adhérerait sans doute spontanément. Et pour ce qui a trait à l'action diplomatique française, elle est, pour petit pays qui n'est pas une grande puissance militaire, elle est quand même très présente, dites-vous, dans les grands rendez-vous internationaux. Et elle a une influence due à la manière dont elle pose les problèmes internationaux. En quoi consiste cette singularité de la contribution française ?
Je crois que la France a contribué à structurer, je dirais, les règles du système international depuis l'origine. Dès le XVIIe siècle, on met en place le concept d'équilibre des puissances. Ça, c'est une pensée française.
Notamment résultat de la paix de Westphalie.
Avec Richelieu, c'est ça ce qu'est la reconnaissance mutuelle des souverainetés. La pensée française est très importante dans ce domaine-là. Et puis, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe, toutes les idées de sécurité collective. Ça, c'est aussi une invention française. Et depuis la création du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont la France est l'un des 5 membres permanents, nous sommes les premiers en nombre de résolutions d'initiatives françaises. Quand on tient la plume, comme on dit à New York, j'ai calculé sur 12 ans, avec notre représentation permanente à New York, c'est 23%. Et en 2013, on est à 21%. Quand on est en P3, comme on dit, c'est-à-dire avec les Américains et les Britanniques, on arrive à 80%. Et quand on travaille avec les Togolais et les Marocains qui nous aident, c'est 90%. Autrement dit, la France pèse par sa capacité à initier des solutions dans l'ordre de la sécurité collective. Évidemment, ça concerne une région plus limitée, c'est le Proche et le Moyen-Orient, c'est la Libye, ça a été la Libye, et maintenant c'est la République centrafricaine, ça a été le Mali. Avec l'idée que s'il y a une intervention de force, il faut qu'il y ait une légitimité internationale, notamment les articles de la charte, en particulier l'article 7, qui permet le recours à la force. Et l'élément militaire ne doit pas être négligé. Je lisais récemment un classement produit par un centre d'études stratégiques de New Delhi. Leur critère est évidemment adapté. Il y a le développement économique, l'innovation technologique, l'autonomie énergétique, la population, mais ce n'est pas le seul critère, les capacités militaires et nucléaires. La France est classée au 4e rang. C'est-à-dire, vu de Delhi, par des stratèges, on est perçu, parce qu'on a une capacité aux Nations Unies, l'Inde n'en fait pas partie, Conseil de sécurité comme en permanent, capacité d'intervention militaire, gestion civilo-militaire des crises, qui nous classe, vu d'Inde, dans cet institut, au 4e rang, alors qu'en général, il n'y a aucune complaisance en Inde pour la France. Donc c'est un élément important, je dirais une certaine capacité à prendre des responsabilités. Il y a eu une parodie d'élection en Syrie il y a quelques jours. On voit très bien que s'il y avait eu une intervention française accompagné par les Américains et les Britanniques en Syrie, on aurait modifié le rapport des forces, on n'en serait pas là. Et là, on a un bon exemple de ce qui se passe quand on n'intervient pas. On peut critiquer l'intervention en Libye, mais on a un exemple. Je crois que la France, me semble-t-il, pas seule, a un certain sens de l'action responsable.
Oui, ben précisément, lorsqu'il y avait été question d'intervention en Libye, avant l'accord sur l'utilisation des armes chimiques, là, la France s'est avancée. En croyant pouvoir compter sur l'appui américain, et ce n'est pas ce qui s'est passé. Et là, arriver de manière spectaculaire quand même le rôle de puissance de second rang de la France.
Bien sûr, là, je ne veux pas idéaliser, avec une raison de faire ça tout seul, mais on voit bien ce qui se passe. On voit ce qui se passe quand on intervient. Mali, par exemple, il y a eu des élections. On voit ce qui se passe quand on n'intervient pas. Il y a très peu d'États qui ont une préoccupation pour la marche du monde. Même les pays émergents veulent leur place au soleil au plan économique, au plan du niveau de vie, ne prennent aucune responsabilité. Je l'ai souvent dit aux Chinois, vous ne prenez pas de responsabilité en Afrique alors que vous avez des intérêts.
Oui, de même que les Allemands n'en prennent pas beaucoup en Europe non plus.
L'Allemagne évolue puisqu'elle considère maintenant qu'elle est trop grosse, c'est-à-dire trop puissante pour se contenter de faire des commentaires.
Mais certains pays ont, de fait de leur passé, parfois peur de leur propre puissance.
Bien entendu.
Cela dit, la France n'a pas eu un rôle exemplaire après la Première Guerre mondiale, en proposant un règlement de paix qui a, d'une certaine façon, condamné l'Europe à la stabilité jusqu'à la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale.
Bon,
on est sorti de ce contexte.
Oui, non, mais les historiens, Jean-Jacques Becker l'a expliqué dans un débat fermée entre Fabius et Steinmeier, le ministre allemand des Affaires étrangères, récemment. Et Becker a donné une clé sur l'aspect néfaste des clauses de Versailles, notamment sur les réparations, c'est qu'il y avait une exigence de la population française, notamment des survivants, qui avait vu dans tous les villages les hommes mourir au front. Il y avait cette volonté imposée aux dirigeants politiques d'une réparation.
Mais imposer à un pays qui n'a pas été envahi, qui n'a pas souffert de la guerre et qui se demande pourquoi il l'a perdu, ça devait provoquer des résultats catastrophiques. Bon, ces temps sont révolus, je l'espère, à jamais. Alors, venons maintenant quand même à des aspects peut-être un peu plus contrastés. Nous n'avons pas parlé de l'économie française. Or, l'économie française, aujourd'hui, a des champions, des domaines de compétences, où certains même sont parmi les premiers mondiaux, et puis surtout des grandes entreprises multinationales. Ça, c'est le fer de lance de la capacité économique de la France, qui a une puissance de projection sur la scène internationale considérable. Enfin, tout le monde connaît les noms de ces grands groupes complètement internationalisés.
Oui. Simplement, c'est seulement une quarantaine. Et ils sont sous contrôle de capitaux étrangers à hauteur de plus de 50%.
Alors, c'est le cas de Saint-Gobain, de Suez, de L'Oréal, de Veolia...
Mais la faiblesse française, elle est double. Elle est dans l'insuffisance numérique et en moyens financiers de ce que les Allemands appellent le Mittelstand. En France, on pourrait dire les entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire ce sont des PME qui ont grandi. Il y a 3500 entreprises de taille intermédiaire en France, dont 640 qui sont considérées comme leaders dans leur domaine. 87% d'entre elles ne vendent qu'en France. En Allemagne, il y a à peu près 6000 entreprises, 80% de leur marché est international. La grande différence est là. Ce n'est pas nouveau d'ailleurs, c'était déjà le cas à la fin du 19e. Ma grand-mère avait une machine à coudre allemande. J'ai trouvé ça dans un grenier récemment. Parce que c'est un bon produit. C'est un bon produit qui dure. Je pense qu'elle marche encore. Il faudra essayer. Là, il y a une faiblesse. La deuxième faiblesse que j'ai essayé de cartographier en croisant la carte de la francophonie et la carte des parts de marché de la France, nos entreprises, sauf celles que vous avez citées, les très grandes, qui sont complètement internationalisées, nos entreprises ont des parts de marché nettement supérieures à leur moyenne mondiale, qui est 3,2%, dans les pays francophones. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait les contrats en français. Et je regrette de devoir dire ici, à France Culture, dans cette émission, que nos entreprises doivent savoir aussi exporter en anglais. Quel est le premier marché typique d'une entreprise française? C'est la Belgique. Mmh. Et ensuite, c'est la Suisse. Et donc là, il y a une véritable difficulté à sortir d'une espèce de rente linguistique, de sortir de ce que j'appelle, non pas dans le livre, mais en y réfléchissant depuis, la francosphère, qui n'est pas la francophonie. La francophonie, c'est une institution. La francosphère, c'est l'ère d'influence spontanée de l'économie française.
Alors, c'est quand même pas le cas de Carrefour, hein, qui a ouvert des magasins au Brésil, qui en a
ouvert en Chine. Oui, mais Carrefour, c'est pas une PME.
Non, vous parliez des PME. Alors, revenons aux grands groupes, parce que quand même, oui, ça, c'est un défaut de la France.
Les grands groupes sont à l'inverse complètement internationalisés et ont des positions extrêmement fortes dans pratiquement tous les domaines, les services, la banque, l'assurance, les grandes infrastructures.
Ciment, aviation, oui, tout à fait, tout électrométallurgie,
ça tout c'est à fait. Non, 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 là, il n'y a aucun doute. Les grands groupes entraînent d'ailleurs derrière elles, dans leur sillage, des entreprises de taille intermédiaire qui réussissent beaucoup, notamment les équipementiers, ou dans l'énergie, les énergies renouvelables. Mais encore une fois, il y a une difficulté pour les entreprises de taille intermédiaire, d'une part à trouver des financements adéquats. La banque publique, la BPI, la banque publique d'investissement, vient de publier un rapport en montrant qu'il n'y a pas eu d'investissement en France dans les entreprises de taille intermédiaire depuis 5 ans. Et c'est une difficulté aussi pour exporter. Il y a une espèce de gap culturel. Je ne sais pas s'il y a un problème linguistique en France. Et je crois qu'à cause de la qualité de notre langue, cette qualité extraordinaire, cette clarté, au fond, nous empêche d'une certaine façon de travailler dans la langue des autres, qui est souvent l'anglais.
Si on peut prendre le mouvement inverse, c'est-à-dire non seulement la projection de la France dans le monde, mais la capacité que la France a d'attirer des étrangers, il est vrai que des investisseurs ont une habitude d'investir dans des entreprises françaises. Certains y ont fait, des investisseurs étrangers, certains y ont fait des affaires. On croit remarquer depuis un certain temps un certain retrait, aussi bien des investisseurs que des chefs d'entreprise qui seraient prêts à développer une activité en France. Alors, en raison, évidemment, de ce qui est perçu parfois comme un excès de bureaucratie française, un excès de régulation, un manque de stabilité.
Manque de stabilité, oui, manque de stabilité des règles, interventionnisme un peu intempestif de l'État, on le voit sur Alstom et General Electric. Il va de soi que l'intérêt français, c'est que General Electric installe son siège européen en France.
Donc ça veut dire que ce sont nos politiques qui détruisent, qui par ses actions, sapent les bases de l'influence française.
Je crois qu'on ne devrait pas, s'occuper des choix d'investisseurs privés qui ont réussi, et surtout une entreprise comme General Electric. On n'a pas de leçon à lui donner. Et si elle veut faire de la France sa plateforme européenne d'investissement, laissons-les faire.
Évidemment, les industries championnes de la France, celles auxquelles l'image de la France est attachée, sont les industries de luxe dans le monde entier. Il suffit de se promener dans n'importe quelle rue d'une capitale. On voit des boutiques Christian Dior, des boutiques Hermès, des boutiques Chanel. Ça, aucun pays du monde n'a remplacé la France avec ses grands noms du luxe. C'est pareil dans de très nombreuses activités. Mais à côté de ça, il y a quand même une certaine relégation de la France pour ce qui a trait aux universités, à la recherche et à de nombreuses activités où il y a un siècle et demi, la France était quand même numéro un dans le monde.
Oui, enfin le monde,
Mais même en incluant les États-Unis qui commencent à créer une.
Bon, l'attractivité universitaire est forte en nombre d'étudiants, à peu près 300 000. Ça c'est quatrième ou cinquième rang mondial. Vous avez cité l'art de vivre, le luxe, l'art de vivre. Ça a un inconvénient, c'est que ça gomme un peu l'influence scientifique et technique de notre pays. On est en gros au 5e, 6e rang mondial en termes de publications scientifiques. On a autant de médailles Fields que les Américains. On a une école mathématique en France, on a une école physique, c'est pas à vous que je vais apprendre ça. L'école normale est très bien classée dans le classement de Shanghai, Pierre-Marie Curie. Même si c'est pas nous qui n'est pas prescripteur, on est une référence en matière de santé. J'aime citer cet exemple. Le président de la République a inauguré en avril 2013 l'Institut Pasteur de Shanghai avec l'Académie des sciences et de médecine de Chine. C'est le 32e Institut Shanghai Pasteur. C'est une affaire qui a commencé en 1891 et dont Patrick Deville parle très bien dans Peste et choléra, puisqu'il s'agit du deuxième Institut Pasteur de Nha Trang au Vietnam, enfin de Chine à l'époque. Donc on est une référence en matière médicale, en matière de recherche. On vient se faire soigner en France, d'un peu partout. Ça n'est probablement pas assez connu, c'est le cas de l'agronomie et de l'agriculture en général, c'est le cas de la géologie, c'est le cas de la sismologie, de la climatologie. C'est le cas de tous ces domaines qui me sont chers comme géographe, urbanisme, architecture, aménagement du territoire. Donc, tout ceci n'est pas assez connu. Moi, j'essaye dans le livre, non pas de produire des classements et de faire des comparaisons, mais de faire la preuve par la carte. Et j'ai trouvé beaucoup de choses à cartographier.
Bon, merci Michel Fouché pour cet entretien. Merci à François Connat qui a réalisé cette émission. Merci à Marie Dalquet et merci à Jean-Richard Dufour qui était à la technique. La semaine prochaine, nous parlerons de morale et d'anthropologie, car après tout, les questions morales ont été, d'une certaine façon, à la naissance même de la réflexion anthropologique. tout de suite, vous retrouvez Marie Richeux pour Pas la peine de crier. Et quant à moi, j'espère que notre rendez-vous habituel du jeudi pour questions d'éthique aura lieu la semaine prochaine. Donc, d'ici là, très bonne semaine à vous.